France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la grève des cigarières de Marseille. En 1887, dans la deuxième ville de France, alors que l'industrie de tabac fait la fierté de l'État, les conditions de travail restent difficiles pour celles qui roulent des cigarettes à la main, parfois plusieurs centaines par jour. Ces immigrés, italiennes et espagnoles, parfois juste débarqués dans la cité phocéenne, triment 10 heures par jour, les mains jaunies par le tabac, mais surtout, elles sont victimes d'injures, de moqueries et de fouilles au corps de la part de leurs contremaîtres. Alors il arrive un moment où trop c'est trop, et les cigarières décident de se mettre en grève. Un mouvement initié par des ouvrières, donc des femmes, alors forcément, à l'époque, personne n'y croit, et pourtant elles tiennent bon, ces femmes, pendant 12 jours. Soutenues par la presse locale, leur cause ira même jusqu'à la Chambre des députés. Une grève féminine historique, qui préfigure bien d'autres victoires syndicales et qui inspire toute une profession. Notre invitée aujourd'hui, Mathilde Ramadier, autrice de la bande dessinée La Belle Nommée, Fabrique des Révolutions, qui retrace justement l'histoire de ces cigarières. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat aujourd'hui avec Retro News, le site d'archives de presse de la BNF, récit documentaire Pauline Ferrari, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Nous sommes en 1868 et à Marseille, ce jour-là, c'est jour de fête. L'une des plus grandes manufactures de tabac de France ouvre ses portes dans le 3e arrondissement, proche de la nouvelle gare Saint-Charles. Une place de choix. La manufacture se situe en effet à proximité des voies ferrées qui relient Marseille à Lyon et à Paris, au sommet du quartier de la Belle de Mai. L'usine fait la fierté de toute la région, et la presse ne manque pas de s'en faire l'écho, comme le petit Marseillais le 20 février 1869.
La manufacture impériale des tabacs de Marseille est un établissement modèle. Sa construction est toute récente. Les plans en ont été dressés pour remplir un but spécial. Les bâtiments réunissent toutes les conditions désirables à la fabrication des tabacs. De vastes entrepôts y reçoivent les balles de l'Amérique, de l'Afrique et du Levant. Il y a un an, lorsque la manufacture des tabacs était rue Sainte, les choses ne se passaient pas ainsi, faute d'espace. La réception se faisait dans les ateliers même des confectionneuses, sous les yeux et par des épreuves. Ce mode était des plus vicieux. Les ouvrières perdaient des minutes précieuses dans le dérangement que leur occasionnait la nécessité de porter elles-mêmes leur travail en l'attente de leur tour. On conçoit que si la manufacture des tabacs était dans sa construction parfaitement aménagée, la distribution du travail y est également réglée d'après les meilleures méthodes et qu'elle s'est basée sur tout ce que l'expérience et l'étude ont adopté dans l'intérêt de l'ouvrier et du consommateur. Il réunit tous les avantages, gain de temps, impartialité, séparation des sexes.
Pour des ouvrières comme Teresa, 20 ans, cette nouvelle usine est signe de modernité. Fini les locaux insalubres à deux pas du vieux port. Ici, tout est flambant neuf. Les murs épais de la manufacture impériale de tabac, comme on la nomme au tout début des années 1860, s'étendent sur près de 12 hectares. Et l'usine fait la fierté de tout le pays. C'est une industrie de rang national, gérée par une régie d'État au cœur du flamboyant Second Empire, une décennie 1860-1870, pendant laquelle la France, en plein essor industriel et artistique, est le centre du monde. Rapidement, la manufacture impériale de tabac devient le premier employeur de la ville de Marseille et la deuxième manufacture de France derrière Paris. L'État, alors détenteur du monopole de la fabrication du tabac, souhaite profiter du climat favorable de Marseille et de ses ports qu'il a reliés au marché colonial. Mais aussi, de la renommée des ouvrières marseillaises. Celles qui, comme Teresa, sont réputées minutieuses, mais surtout dociles. Oh, Teresa le sait. C'est l'occasion pour l'État de donner l'exemple. Les conditions de travail se veulent plus avantageuses que dans les entreprises privées. Et l'usine promet de bien tourner. La consommation de tabac ne cesse d'augmenter. En métropole, mais aussi dans toutes les colonies françaises, sous la forme de cigares, de cigarettes ou bien de scaferlati, le tabac à fumer. On estime que la CITA, ou Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, confectionne près de 100 millions de cigares par an et une armée de cancers. Teresa, comme tant d'autres ouvrières, participe à cet inconscient succès. Quand les cloches géantes sonnent le début de la journée de travail, à 5 ou 6 heures du matin, Teresa se presse le long des bâtiments en pierre. Elle contourne les machines à vapeur pour se rendre à son étage et se fond dans la foule de travailleuses qui constitue l'immense fourmilière de la manufacture. D'ailleurs, on les remarque, ces ouvrières, voire on les admire. Et on en fait le portrait, comme ici dans Le Petit Marseillais en 1868.
À Marseille, nos cigareuses sont pimpantes et jolies au possible. Leurs vêtements sont soignés. Et ne croyez pas que leurs mains conservent cette trace jaunâtre qui reste au doigt même du fumeur, qui ne tient pas continuellement le tabac à la main comme elles le font toute la journée. Du tout le savon des fabriques de la ville y passée, la cigareuse veut être propre et éviter avant tout d'exhaler le parfum des produits importés par Jean Nicot. Il faut les voir, le matin à 6 heures l'hiver, à 5 heures l'été, se rendant à leurs travaux journaliers. La jupe légèrement retroussée pour ne point gêner la marche, les cheveux bruns rétifs déjà à la pression du peigne, luttant contre le vent qui vient sur leur visage, faire éclore ces teintes carminées, courant sous la peau, et qu'on remarque avec tant de plaisir dans les types des jeunes filles provençales. Fraîches, lestes, elles trottent, menues, et leurs francs éclats de rire réveillent par leurs échos argentins le dormeur que la paresse retient au lit.
Donc, on peut dire cigareuse ou cigarière. On va garder cigarière, c'est plus joli. Comme tant d'autres ouvrières, Teresa vit dans le quartier de la Belle de Mai, profondément populaire, épicentre de la population ouvrière et émigrée. Au début du 19e siècle, le quartier est réputé pour ses vergers, ses guinguettes, et accueille les notables marseillais. L'installation des premières usines va faire changer le type de population qui y vit. Dès 1850, comme un grand nombre d'immigrés italiens et espagnols, Teresa a fui la misère de son Piémont natal pour venir trouver refuge en France. Comme tant d'autres, elle a choisi, un peu par hasard, et par commodité géographique peut-être, le sud de la France. En 1851, on compte ainsi plus de 17 000 Italiens dans le département des Bouches-du-Rhône. 90% de cette immigration transalpine est concentrée à Marseille. Mais cette arrivée massive de nouveaux travailleurs et travailleuses italiens et italiennes ne se fait pas sans tension. La xénophobie et les violences envers eux et elles augmentent. On les accuse de faire baisser les salaires, voire de voler le travail des Français. Déjà. Et comme en témoignent les archives du musée d'histoire de Marseille.
Des tensions existent entre Français et Italiens. Une poussée de fièvre xénophobe surgit en 1881. Des ouvriers italiens sont attaqués suite à un conflit franco-italien en Tunisie. C'est l'affaire des vêpres marseillaises. Au terme de 3 jours de violence, on compte 3 morts et 21 blessés.
Les vêpres marseillaises de 1881 affectent profondément la communauté italienne. Des milliers de ses membres décident de quitter la ville. Et pour ceux qui restent, comme Teresa et sa famille, les insultes fusent, tout comme les humiliations. Les Italiens, au masculin, sont perçus comme des ivrognes, des sauvages, bons à jouer au couteau, qui viennent attaquer les bons travailleurs français. Pour les ouvrières italiennes, leur genre, leur origine et leur statut signent triple peine. Elles sont des italopouilleuses. Il se trouve que les Italiennes travaillent. Elles sont nourrices, vendeuses d'oranges, femmes de ménage et le plus souvent ouvrières. À son ouverture en 1868, la manufacture de tabac emploie plus de 1250 personnes, dont 93% de femmes. C'est l'une des plus grandes concentrations de main-d'œuvre féminine à Marseille. Pourtant, leur travail n'est pas vu comme signe d'émancipation. Le code civil napoléonien fait encore des femmes des mineures, même si elles sont mariées. Elles sont sous l'autorité de leur père, de leur mari ou même de leur patron. Par exemple, le salaire de Teresa est vu comme un maigre complément, pourtant nécessaire à la survie de la famille. Le travail est peu qualifié, les gestes sont répétitifs et plus dociles, comme l'indique la réglementation du travail des femmes dans l'industrie. En 1892, elle indique que les patrons acceptent volontiers les ouvrières parce qu'elles sont des instruments plus souples, plus dociles, encore une fois, que les hommes. Les ouvrières n'ont pas, comme les ouvriers, d'esprit de corps. Et tout le monde y croit. Or, et la vérité est là, pour les ouvrières immigrées comme Teresa, souvent à peine débarqués d'Italie. Le travail est une nécessité, comme l'explique Sarah Zingraf, guide conférencière aux archives municipales de Marseille.
D'autres tâches mettent leur santé en danger, dans les manufactures de tabac installées à la Belle de Mai, où les cigarières sont en contact constant avec le tabac qu'elles découpent et qu'elles roulent à la main. Les femmes sont souvent mises au travail dès leur arrivée à Marseille, alors que toutes ne travaillaient pas forcément en Italie. Et ce, malgré la présence d'enfants en bas âge. Qu'elles soient ouvrières à l'usine, femmes de ménage ou vendeuses d'oranges, elles emmènent leur enfant au travail pour pouvoir l'allaiter ou le confier à une voisine ou à la fille aînée. Bien que tous les membres de la famille en âge d'exercer une activité mènent une rude vie de labeur, les femmes travaillent tout le temps, puisqu'elles s'occupent en plus des courses, du ménage, de la cuisine, du linge et de l'éducation des enfants. Malgré tout, la rémunération des ouvrières est de moitié inférieure à celle des hommes, car les tâches effectuées ne sont pas jugées qualifiées et que les salaires des femmes sont considérés tout bonnement comme des salaires d'appoint.
Et on est bien loin de l'image romantique et sensuelle des cigarières de l'opéra Carmen. À la CEITA, les conditions de travail sont dures. Teresa et ses collègues triment entre 9 et 10 heures par jour, été comme hiver, et roulent cigares et cigarettes à la main. Parmi ces ouvrières, nombreuses sont très jeunes et viennent travailler à l'usine jusqu'à leur mariage pour y gagner leur trousseau. La direction favorise le recrutement familial de mère en fille afin de fidéliser la main-d'œuvre. Ces émigrantes sont souvent mal vues par les autorités ou les prêtres. On leur prête des mœurs légères ou peu soucieuses de leurs enfants. Alors, au sein des usines, l'organisation du travail est stricte. Les différents métiers sont classés par section. Certaines torréfient les feuilles, d'autres, comme Teresa, roulent les cigarettes à la main. Les ciseaux coupent mal, et quand le tabac arrive en mauvais état, leur travail est ralenti. Or, tout retard engendre des pénalités, et certaines ouvrières sont mises à pied si elles dépassent les taux de déchets autorisés par jour. Sans parler de l'atmosphère au sein de ces usines. Le Mistral s'y infiltre en hiver, et le soleil tape fort en été. Bref, l'ambiance est oppressante. À cause des contremaîtres aussi tellement attachés à leur pouvoir. Des hommes chargés de surveiller les ouvrières, mais qui se permettent aussi de critiquer leurs mœurs, leur coiffure ou de les insulter. Classique abus de pouvoir des médiocres, à toutes les époques. 3 minutes de pause, pas une de plus. Et même si Teresa et ses collègues passent les journées dans les vapeurs des produits chimiques, les maladies du travail ne sont pas reconnues. Chaque matin et chaque soir, comme le raconte la sociologue Claire Duport au micro de France Culture, on voit les travailleuses longer la rue bleue.
Et particulièrement à la CEITA, au début du XXe siècle, 90% des salariés de l'usine sont italiens, sont d'origine italienne, mais sont aussi des femmes. On les appelait les femmes en bleu, d'ailleurs, parce qu'elles étaient vêtues d'une blouse bleue pour travailler à l'usine, et donc de la maison à l'usine et de l'usine à la maison, elles gardaient cette blouse. Donc on trouve dans les archives des récits et des photos de ces femmes en bleu, qui étaient les ouvrières de la CEITA, qui avec leurs petites mains fabriquaient les allumettes et les cigarettes. La production, elle est phénoménale, hein, c'est plusieurs millions de cigarettes par jour qui sont produites ici.
Dans sa blouse bleue, Teresa est une ouvrière parmi d'autres, vêtue à l'identique de ses congénères, fondue dans la masse de la grande usine de tabac. Pour les petits capots que sont les contremaîtres, elles ne sont que des ritales, réputées sales. Les quartiers où vivent ces familles immigrées italiennes sont comparés à des petites cours des miracles. Les épidémies de tuberculose ou de choléra, qui affectent régulièrement Marseille à la fin du 19e siècle, eh bien les familles italiennes sont régulièrement accusées de propager ces maladies. Plus tard, le film Casque d'or illustrera ce racisme ordinaire anti-italien. Et puis il y a les humiliations. Chaque soir, les cigarières sont fouillées avant de quitter l'atelier. On leur demande de se déshabiller devant les autres travailleuses pour voir si elles n'ont pas volé du tabac ou autre marchandise. C'est bien connu, l'italienne est voleuse. Alors en rang, on les met à nu, parfois en plein hiver. Ces fouilles sont perpétrées par leurs contremaîtres, des hommes toujours, qui en profitent parfois pour les agresser en toute impunité. Capots et violeurs, la totale. On fouille leurs vêtements, leurs sabots, et les fouilleurs sont eux-mêmes parfois fouillés par le concierge. L'arroseur arrosé, c'est déjà ça. Chaque déplacement est une occasion pour des contrôles supplémentaires, qu'il s'agisse d'aller aux toilettes ou de se laver. Un jour, Teresa a même reçu un blâme pour avoir taché sa blouse de sang menstruel. Mais un soir de l'hiver 1886, ça va trop loin. Teresa se déshabille face au contremaître. On trouve sur elle des poussières de tabac. Eh bien oui, c'est normal, elle en coupe toute la journée, proteste-t-elle. Elle n'a rien volé. Mais les contremaîtres ne veulent rien entendre. Pour son vol présumé et carrément inventé, Teresa est mise à pied 3 jours. Horrible sentiment d'injustice. Alors, ses camarades tentent de la réconforter, mais toutes savent que l'événement se reproduira pour Teresa comme pour les autres. Alors, elles en discutent en sortant de l'atelier, tandis qu'elles regagnent leur taudis. Elles en ont marre des chefs, de leur manière de leur parler, de les toucher, de ces imbéciles incultes transformés en monstres sur le lieu de travail. Et pourquoi pas une grève ? Propose l'une d'elles. Comment ça une grève ? Sans syndicat ? L'excitation et la peur traversent les ouvrières, c'est normal, mais au fil des semaines, le mot passe entre les étages de la manufacture. Alors, il faut être discrète, bien sûr, mais ça peut marcher.
Abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio.
Io li ora e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la grève des cigarières de Marseille.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Le 5 janvier 1887, après plusieurs semaines de préparation et de tractations secrètes entre étages de la manufacture, 1200 ouvrières annoncent qu'elles se mettent en grève. Des femmes, en plus des immigrés, sans expérience, ni syndicat qui décide d'arrêter le travail, c'est du jamais vu. Tous les jours, Teresa et ses camarades tiennent réunion dans la salle de l'Eldorado, un casino-théâtre-bistrot à 2 pas de la place de la Castellane. Elles attirent très vite l'attention de la presse. Et elles en profitent pour demander à parler au préfet, puis à Monsieur Audibert, directeur de la manufacture. C'est ainsi que les journalistes du Petit Marseillais, le 9 janvier 1887, racontent l'une des réunions de ces nouvelles grévistes de la Belle de Mai.
Hier après-midi vers 3h, les grévistes au nombre de plus de 1000 se sont réunis dans la salle de l'Eldorado. L'ordre le plus parfait a régné dans la salle, et toutes ces femmes ont montré qu'elles avaient confiance en leur juste réclamation, si peu écoutée, hélas, par la direction de la manufacture des tabacs. Madame la Présidente donne ensuite lecture de l'ordre du jour suivant. la réunion des cigarières, employées à la manufacture des tabacs, tenue aujourd'hui 8 janvier 1887 à la salle de l'Eldorado à la place Saint-Michel, décide de maintenir sa première revendication, à savoir la révocation ou tout au moins le déplacement de M. Jacques Roustan, chef de la 5e section. La réunion décide en conséquence qu'elle continuera la grève jusqu'à ce que satisfaction leur soit donnée sur ce point.
C'est qu'elles sont remontées, les cigarières. Déjà en 1870, celle de Toulouse s'était mise en grève. Dans le journal catholique et conservateur L'Écho de la province, un journaliste écrit même. C'est vraiment chose étrange de voir défiler ce régiment en jupon, armé d'aiguilles à tricoter que les femmes font manœuvrer tout le long des rues. Pourtant, Teresa et les cigarières marseillaises sont bien seules au début. Elles sont encore méprisées par les syndicats traditionnels en raison de leur genre et surtout de leurs origines. Dans les mentalités, les Italiens, et de fait les Italiennes, sont vus comme des briseurs de salaire qui se contentent de rémunérations faibles, mais surtout comme des casseurs de grève. Sauf que les ouvriers italiens participent déjà aux conflits sociaux, avec les Français étant parfois en première ligne face aux forces de l'ordre. La grande grève d'avril 1883 des dockers de Marseille voit lutter, par exemple, côte à côte, ouvriers italiens et français. Et puis Teresa le sait, elle et ses congénères portent des revendications plutôt singulières. Pas tant sur le salaire d'ailleurs, mais sur leur dignité. Comme l'explique la journaliste Mathilde Ramadier, autrice de la bande dessinée La Belle de Mai, fabrique des révolutions ici au micro de Drôme Ardèche.
On parle quand même de 1200 femmes qui ont fait une grève sur le tas, avec des revendications pas forcément salariales, mais qui concernaient vraiment leur dignité, c'est-à-dire le rapport au corps, puisqu'elles réclamaient qu'on cesse de les fouiller à la sortie des ateliers. Ces femmes étaient pour la plupart du nord de l'Italie, du Piémont et de la Sicile, et elles n'étaient pas syndiquées, elles n'étaient que peu considérées par les syndicats à l'époque, par le Parti communiste également.
Mais oui, qu'on cesse les fouilles au corps à la sortie des ateliers. Et puis qu'on renvoie ce dénommé Jacques Roustan, là, le contremaître devenu symbole des abus de la hiérarchie. Mais elles exigent aussi des locaux mieux chauffés l'hiver et mieux aérés l'été. Un matériel de meilleure qualité et des hausses de salaire. Alors on s'organise, on récolte quelques francs à chaque réunion et on se réunit au local du 21 de la rue Sainte, mise à la disposition des grévistes par le journal Le Petit Provençal. Les belles de la manufacture sont formelles. Elles n'arrêteront pas la grève tant qu'elles n'auront pas obtenu satisfaction. Pourtant, Teresa et ses collègues risquent gros. Chaque jour de débrayage est un jour non payé et elles ont des familles à nourrir. Sans compter que leurs maris, ouvriers ou dockers, ne sont pas toujours très contents de voir leurs femmes jouer les révolutionnaires. En clair, qui va s'occuper des gosses, ou laver la maison. D'autant que si elles ont le droit de se syndiquer depuis 1884, elles doivent obtenir une autorisation maritale. Mais elles peuvent compter sur un soutien de choix. La presse, d'orientation socialiste, donc progressiste, ouverte aux évolutions de la société et du social. Dès le début du mouvement, les cigarières voient débarquer des journalistes qui affirment pouvoir les aider à médiatiser leur combat, mais aussi à gagner le cœur de l'opinion publique. Dans la presse locale, leur combat est raconté quotidiennement et avec moult détails. Ainsi peut-on lire dans le Petit Marseillais le 11 janvier 1887.
Les ouvrières, ayant plus de peine et gagnant moins, manifestent leur mécontentement par de petites infractions au règlement qui sont aussitôt sévèrement réprimées. Et ces répressions elles-mêmes se traduisent par une nouvelle réduction des salaires. Cependant, comme il faut vivre quand même, on continue à travailler, jusqu'au jour où, le mécontentement devenant trop aigu, on cesse le travail dans l'espoir d'obtenir justice avec l'appui de l'opinion publique. L'opinion publique, nous ne craignons pas de le dire, est aujourd'hui avec les grévistes. Non pas qu'elle épouse leur grief particulier contre M. R, mais parce qu'elle sait, par expérience, combien la régie est peu consciencieuse dans la vente d'un produit qui rapporte plusieurs centaines de millions à l'État.
L'appui de la presse vient aussi d'un constat. L'entreprise d'État gagne en effet beaucoup d'argent avec la vente de tabac. Et le refus d'entendre les doléances des grévistes passe mal. Du côté des journalistes, on soutient la grève. Et l'histoire des cigarières voyage dans toute la France, du sud-ouest jusqu'à Paris, toujours grâce aux journaux. Pourtant, on essaie bien de les démoraliser. Un matin, dans un journal conservateur, Teresa lit que leur mutinerie, oui, mutinerie, a pour projet de tout casser dans les boutiques du centre-ville. Autrement dit, leur mouvement serait une incitation au pillage, à la débauche, à l'anarchisme, écrit-on. Black bloc avant l'heure. Les cigarières votent le choix d'une délégation de quelques ouvrières qui ira porter leur cause auprès du patron de la manufacture. Le 11 janvier 1887, au sixième jour de grève, elles s'entretiennent avec Monsieur Audibert, le directeur. On ne peut pas dire que cet homme soit particulièrement ravi de s'entretenir avec des travailleuses tout en bas de l'échelle. Mais la pression exercée par le préfet de Marseille l'y contraint. Il y aura plusieurs réunions de soi-disant médiation entre quelques cigarières, délégués du mouvement et le directeur, aux ordres, lui, de l'État. Ces entrevues sont surtout l'occasion d'humiliations sexistes. Les délégués rapportent à Teresa qu'on les a infantilisés, qu'on a tenté de les amadouer, mais surtout qu'on ne prend pas vraiment leur grève au sérieux. Insatisfaites, les cigarières durcissent le mouvement et votent la poursuite de la grève. La manufacture, gérée par l'État, rappelons-le, se heurte rapidement au soutien du mouvement par les forces politiques locales. Dans les réunions organisées par les cigarières au 21 rue Sainte, on retrouve en effet des élus de Marseille. Conseillers généraux, conseillers d'arrondissement et conseillers municipaux se présentent chaque jour plus nombreux. Des membres des autres syndicats, tous des hommes, viennent aussi soutenir les ouvrières et participent à collecter des fonds pour les caisses de grève. Ce bras de fer social infuse dans tout Marseille, ou presque. En tout cas, contre l'État et sa centralisation parisienne. Et donc, la situation inquiète Paris. Il ne faudrait pas que la grève dure trop longtemps. Un inspecteur du ministère de l'Intérieur est envoyé à Marseille le 12 janvier 1887 pour mener une enquête indépendante qui, selon les grévistes, est bâclée et ne vise qu'à desservir leur cause auprès du pouvoir parisien. Teresa et les autres cigarières l'affirment, elles ne reprendront pas le travail dans ces conditions, surtout tant que le contremaître Roustan sera encore là. Qu'à cela ne tienne, elles défileront dans Marseille s'il le faut après tout. Qui sème le mistral récolte la tempête. La nouvelle de la poursuite de la grève monte jusqu'à la capitale, notamment par la voix de Clovis Hugues. Le poète et romancier qui avait soutenu la commune à Marseille avait même conclu. Connu la prison pour ses positions, a été élu en 1881 député de Marseille. Socialiste, il n'hésite pas à porter la voix de ses travailleuses et à défendre leur cause jusqu'au plus haut sommet de l'État. Les forces locales, dont le préfet de Marseille, insistent pour que le contremaître Roustan soit démis de ses fonctions par le ministère de l'Intérieur lui-même. Et c'est cette pression que relate dans ses pages le petit Marseillais du 14 janvier 1887.
La commission de la grève qui siège en permanence dans le local de la rue Sainte s'est rendue vers 5h à la préfecture accompagnée des membres des corps élus. Monsieur le préfet a reçu la délégation et a annoncé aux ouvrières que l'enquête était terminée et qu'il espérait recevoir dans la nuit une réponse favorable. Monsieur le préfet, sans rien préjuger de ce que ferait monsieur le ministre, a laissé comprendre que satisfaction serait sans doute donnée aux ouvrières et qu'elles pourraient reprendre leurs travaux dès lundi. La délégation s'est retirée sous cette bonne impression pour aller annoncer aux ouvrières qui se trouvaient à la rue Sainte le résultat de cette entrevue. L'annonce qui a été faite par un des délégués, que monsieur Roustan était décidé à se retirer, a produit une excellente impression et les ouvrières se sont retirées vers 5h au milieu du plus grand calme.
Du côté du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Finances, le désarroi est palpable. L'industrie du tabac est l'une des plus importantes de l'époque. Et chaque jour de grève, dans la deuxième plus grande manufacture de France, fait perdre beaucoup d'argent à l'État. Mais surtout, on parle là d'une grève de femmes. Et le gouvernement craint que le mouvement social soit contagieux dans d'autres corps de métiers féminisés, comme les raffineries de sucre ou les usines de textiles à Marseille comme ailleurs. Alors pour éviter cette contagion, le ministère de l'Intérieur doit prendre une décision, et vite. Donc, il tranche, et le préfet s'exécute. Roustan est déplacé, il ne sera plus à la manufacture. Les ouvrières ont presque du mal à y croire. Teresa en pleurerait presque. 12 jours de lutte qui se soldent pour les 1200 ouvrières par une victoire face à la régie d'État. Ce n'est pas rien. Elles ont tenu bon, mais surtout elles ont gagné. Alors, pas encore d'augmentation de salaire, non, mais au moins le respect de leur dignité et de leur humanité. La fin de la grève est marquée par une dernière réunion au même local du 21 rue de Sainte. Élus locaux, journalistes, syndicats et grévistes apprennent la nouvelle de la destitution de Roustan dans les applaudissements et les cris de victoire en plusieurs langues. Le retour au travail est décidé pour le lendemain et la salle résonne au son de « Vive le préfet !» lui qui les a tant soutenus. Emportés par la joie, les cigarières décident un dernier geste symbolique. Aller remercier le préfet en personne et avec des fleurs. Une scène assez inhabituelle pour une fin de grève que relate le petit Marseillais le 16 janvier 1887.
À ce moment, du fond de la salle, une dame apporte un immense bouquet qui est déposé sur le bureau. Madame la présidente indique que la commission de la grève a pensé aller au-devant du désir des cigarières en offrant un bouquet à monsieur le préfet en reconnaissance de la sympathie qu'il n'a cessé de témoigner aux ouvrières. Ces paroles sont suivies de longs et frénétiques applaudissements. La commission, qui s'adjoint trois nouvelles déléguées, choisies par l'Assemblée, est désignée pour aller auprès de monsieur le préfet lui porter ce bouquet, et la séance est levée à 3h au milieu d'un grand enthousiasme. Sur la plaine, à la sortie de l'Eldorado, quelques curieux sont étonnés de voir cette manifestation pacifique précédée d'un bouquet. « Une grève qui finit par un bouquet », dit l'un d'eux. « Il n'y a que des femmes qui pouvaient avoir une idée pareille », répond un autre.
Quelques jours plus tard, toutes les cigarières ont repris le travail, non sans avoir remercié la presse locale et les élus pour leur soutien. Pourtant, cet épisode de rêve ne signifie pas que Teresa et les autres ont décidé de passer l'éponge sur tous les désaccords. Cette expérience de la lutte commune en autogestion leur a donné des idées. La même année, en 1887, les travailleuses créent à Marseille la première chambre syndicale de cigarières. Un succès. Ce sont les premières de toutes les manufactures de l'État à former un syndicat. Alors elles inspirent d'autres femmes un peu partout en France. Certaines cigarières se déplacent dans d'autres manufactures de tabac pour aider à la création de syndicats, comme à Lyon ou à Paris. En 1893, les ouvrières marseillaises vont même jusqu'à Morlaix pour aider leurs consœurs bretonnes. En 1891, la Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des manufactures de tabac de France est fondée et rassemble 15 syndicats de travailleurs et travailleuses des manufactures de tabac. Une fédération puissante, où l'on compte 75% de personnel syndiqué en 1901. Mais à Marseille, les cigarières ne font rien comme tout le monde. Le syndicat de base n'est pas mixte. Deux organisations se côtoient et l'une d'elles est exclusivement féminine. La présence des cigarières au sein des congrès syndicaux ne s'arrête pas à leur victoire de 1887. Elles continuent à lutter, notamment pour l'égalité professionnelle. Comme dans cet extrait du 5e congrès national des syndicats et groupes corporatifs ouvriers de France, qui s'est tenu à Marseille en 1892.
Une déléguée est venue soutenir qu'elle voulait l'égalité de l'homme et de la femme. L'interdiction de tout travail à la femme mettait celle-ci, disait-elle, dans un état d'infériorité qu'elle n'acceptait pas. La femme doit avoir les mêmes devoirs et les mêmes droits que l'homme. Les liens qui unissent l'homme et la femme ne doivent et ne peuvent être indissolubles. Lorsque la vie commune a cessé, il faut que chacun puisse pourvoir à son existence. Si la femme n'a pas l'égalité devant le travail et devant le salaire, vous obligez une moitié du genre humain à se courber devant l'omnipotence de l'autre moitié, parce que celle-ci aura seule le droit de pourvoir à l'existence de la famille. Tandis que, conséquent avec l'idée émancipatrice de la femme, vous demandez qu'elle soit traitée d'égal à l'homme en lui donnant par les lois les mêmes privilèges, vous devez également consacrer la même égalité dans sa part du travail. Qu'une femme ne sache faire que son ménage, cela lui suffira-t-il si la mort vient enlever celui qui avait charge de subvenir aux besoins de son existence et à celle de ses enfants ? Non. Il faut un travail qui lui permette de remplacer celui que la mort lui enlève.
Si l'on ne connaît pas le nom de celle qui a prononcé ces mots, pourtant tellement pertinents, on peut lire dans les registres d'époque que Marie G., déléguée du 1er et 2e congrès de la Fédération des tabacs, fut l'une des membres de l'Assemblée et l'une des seules femmes. Elle fut de ces cigarières qui demandèrent l'installation de crèches dans toutes les manufactures de tabac et un salaire minimum de 2,75 francs par jour pour les femmes contre 4,50 francs par jour pour les hommes. Elle milite aussi pour que de pensions de retraite soient reversées aux femmes à hauteur de 400 francs. Bon, on est loin de l'égalité salariale, mais pour l'époque, c'est une petite révolution. Au fil des années et des changements dans l'industrie du tabac, la manufacture continue d'employer ses cigarières. Dans les années 60, la Ceita de la Belle de Mai produit 1/5 des gauloises consommées en France. Mais le nombre de salariés baisse et la fermeture définitive de la manufacture est annoncée en 1990. Un coup de tonnerre pour le quartier de la Belle de Mai, structuré justement autour de l'usine et depuis si longtemps. Reste que la lutte syndicale des cigarières de 1887 a inspiré des bals, des pièces de théâtre et des chansons qui leur rendent hommage, comme celle du groupe marseillais Quartier Nord.
Elle est belle cigareuse de la Belle de Mai, sont de sacrées râleuses qui savent s'enflammer. Elles ont le sang chaud et un sacré toupet. Ne mâche pas leurs mots et force le respect.
Aujourd'hui, les ouvrières ne passent plus par la rue Bleue. D'ailleurs, celle-ci a depuis bien longtemps changé de nom. Les grandes cheminées de la manufacture se sont éteintes. Même la cloche ne sonne plus. Teresa a sûrement continué à rouler des cigarettes jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir une maigre pension de retraite, soutenant sa famille, coûte que coûte. Mais surtout, elle a continué à lutter, à s'engager au sein du syndicat pour ses droits et ceux de ses camarades. Symbole des luttes ouvrières, les cigarières ont peu à peu disparu des titres de la presse et des livres d'histoire. On retrouve leurs traces dans les archives, bien sûr, et leurs fantômes hantent les murs de la friche de la Belle de Mai. Elles font partie de ces légendes du quartier que l'histoire a oubliées parce que femmes, parce que ouvrières, parce que immigrées. Comme tant d'autres, après elles, des femmes de ménage de l'INSA de Lyon jusqu'aux femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les cigarières de Marseille. Notre invitée, Mathilde Ramadier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et autrice et vous avez signé en 2024 avec la dessinatrice Élodie Durand la bande dessinée La Belle de Mai, fabrique des révolutions. Et vous intervenez en direct dans les studios d'ici de Romardèche. Comment êtes-vous tombée sur cette histoire des cigarières?
Eh bien, un petit peu par hasard, puisque je n'ai pas eu l'occasion de lire leur histoire dans les livres d'histoire que nous avons eu, par exemple, voilà, au lycée, et ni même dans les nombreux livres féministes que j'avais pu consulter, mais je postulais en 2017 pour une résidence d'écriture en tant qu'écrivaine à Marseille, un programme de résidence porté par une association qui s'appelle La Marelle et qui est située dans les locaux de la Friche Belle de Mai, qui était anciennement cette manufacture. Et pour moi, c'était décidé. À partir du moment où j'ai appris cette histoire, elle m'a obsédée, elle ne m'a plus quittée et je me suis dit, il faut absolument la raconter.
Bien. Justement, est-ce que le fait que ces femmes aient été plus ou moins, voire plus que moins, invisibilisées a été pour vous une motivation?
Absolument, je voulais leur rendre une existence, en fait. J'ai voulu passer du temps avec ces fantômes. Comme vous l'avez dit, elles, non seulement elles étaient femmes, elles étaient immigrées, elles étaient ouvrières, mais même le Parti communiste et les syndicats ne s'intéressaient pas à elles. Elles avaient très peu de considération. Elles œuvraient dans l'ombre pourtant pour une industrie florissante qui était un monopole de l'État. Il y avait 100 millions de cigares qui quittaient les ateliers chaque année. Mais ce qui est le plus fort avant tout, je trouve, c'est que c'était une grève de dignité. Elles n'ont pas réclamé dès le départ d'avoir plus de salaire.
Oui, on l'a dit d'ailleurs, on a insisté là-dessus. Oui,
elles ont demandé à ce qu'on les respecte, en fait, et qu'on respecte leur corps. Et donc, c'est une revendication, un combat qui part du corps. Bien avant MeToo, elles ont dit cessez de nous tripoter, nos corps nous appartiennent, nos corps ne sont pas des ateliers. Et c'est ensuite, après, qu'elles ont réclamé d'autres choses, notamment des meilleures conditions de travail, de meilleurs outils, quand les ciseaux étaient usés, une meilleure aération des ateliers qui pouvaient être très froids en hiver. Et puis, enfin, elles sont allées vers des revendications de l'ordre de l'égalité salariale.
Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est quand même le soutien de la presse. Alors, c'est pas forcément beaucoup de journalistes, mais les journalistes qui soutiennent ce combat sont efficaces quand même.
Oui, alors elles ont eu le soutien en l'occurrence de deux rédactions qui étaient à majorité socialiste, le Petit Marseillais et le Petit Provençal, qui a même organisé une collecte de fonds, et les gens se sont vraiment précipités pour leur apporter des sous. Ils ont récolté 2000 francs en une nuit. Mon avis n'est sans doute pas celui d'une historienne, mais je serais tentée de penser qu'on tombait à une époque, à une période de l'histoire qui était quand même un peu favorable pour l'opinion publique. Une fois en fait que la presse avait fait son travail, malgré les attaques de la presse conservatrice en face, il faut se souvenir que voilà, Bizet avait mis en scène Carmen peu de temps avant, mais aussi Zola écrivait des chroniques qui étaient très suivies. L'Assommoire, Germinal venait de paraître, Les Misérables aussi. Il y avait eu la Commune de Marseille en même temps que la Commune de Paris.
Il y a une conscience sociale et politique à ce moment-là.
Voilà, je pense qu'elles ont touché. Elles ont touché la dignité de leur combat et le fait que ça se soit passé aussi dans la non-violence et qui est comme ça une grande dignité dans leurs revendications et leur manière d'agir a vraiment touché les gens.
D'autant que, et vous insistez là-dessus dans votre BD, on constate à quel point ces ouvrières se sont organisées seules, presque sans moyens.
Oui, tout à fait. Et puis une lutte éclair, hein, puisqu'au total, la grève n'a duré qu'une dizaine de jours, hein, 11 ou 12 jours. On peut imaginer que certaines d'entre elles avaient peu conscience de leurs droits. Le droit de grève lui-même avait été rétabli peu de temps avant. La plupart ne savaient pas ce qu'était un syndicat, puisque voilà, elles n'étaient pas considérées par les syndicats. Donc il faut imaginer vraiment ce courage qu'elles ont eu, cette audace de un jour, après un ras-le-bol généralisé, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire la mise à pied voilà, de cette ouvrière pendant 3 jours. Il faut imaginer quand même le courage qu'il a fallu avoir pour passer à l'acte et faire une grève sur le tas, sachant qu'il y avait eu des histoires hein, déjà de grèves de femmes. On a beaucoup parlé en 2024, justement l'année de la parution de notre livre, des 100 ans de la grève des sardinières de Douarnenez, mais c'était bien plus tard, c'était en 1924. Une grande grève qui avait précédé celle des ouvrières de Marseille était celle des ovalistes à Lyon, les ouvrières de la soie, en 1869. Et puis après, il y avait eu des tentatives de grève, et puis il y avait comme ça des rumeurs et puis des faits qui circulaient, qui racontaient que certaines ouvrières avaient quitté leur poste pour faire grève et puis avaient été remplacées. Donc elles avaient aussi extrêmement peur de perdre leur travail, de se retrouver littéralement à la rue. Donc elles ont fait cette grève sur le tas, avec un piquet de grève, une récolte de fonds. Ça a été très dur, mais ça a été aussi extrêmement efficace, et ça s'est terminé avec beaucoup de joie.
D'ailleurs, nous avons raconté dans Affaires Sensibles la grève des sardinières. Voilà, donc c'est facile à retrouver. Hein. Vous allez sur le podcast Radio France, France Inter, Sardinières, Affaires Sensibles, et vous êtes dessus.
France Inter. Affaires Sensibles.
Mathilde Ramagnier, ce qui m'a frappé dans ce récit, ce qui a frappé beaucoup de ceux et celles qui l'ont entendu probablement, c'est la brutalité des cadres, des hommes sur ces femmes. Fouille au corps, déjà, c'est quand même terrible. Et puis on peut imaginer les abus de pouvoir de certains des contremaîtres qui sont des hommes dont on sait qu'ils les gouvernent, ou quoi.
Oui, tout à fait. Elles étaient fouillées tout... Alors déjà, elles étaient contrôlées à l'entrée le matin. On vérifiait même leur haleine pour vérifier qu'elles n'avaient pas bu d'alcool. Et le soir, quand elles repartaient, on les fouillait au corps. Alors les poches, mais aussi on faisait remonter les jupes. Enfin, je vous laisse imaginer les détails. Pour vérifier, soi-disant, qu'elles n'avaient pas volé de tabac. Elles avaient droit chacune à un petit contingent de tabac pour leur consommation personnelle. On les encourageait à fumer sur place, dans les murs de l'enceinte. Et il leur était interdit, par exemple, de sortir ce tabac pour le revendre. Au passage, on note aussi hein, la façon de déclencher l'addiction aussi chez elle. Et voilà, il y a eu on peut très bien imaginer qu'il y a eu un certain nombre d'attouchements, d'agressions sexuelles.
Alors, double peine pour ces femmes, les Italiennes, les Espagnols. On est dans un contexte de racisme ordinaire. L'Italien est truand, tricheur, fainéant, enfin il y a tout ça quoi. Et puis l'Italienne c'est pire parce qu'elle est une femme. Bon, là c'est une vraie double peine ça, non ?
Oui, avec, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on supposait des mœurs légères, qu'elles venaient piquer le travail des autres, mais aussi qu'elles incarnaient une forme de tentation. Certaines d'entre elles, pour subvenir aux besoins de leur famille, cumulaient les emplois et travaillaient aussi au marché, par exemple. Et donc, on les voyait aussi traverser la ville, et ça aussi, ça faisait jaser. Surtout qu'on attendait d'elles qu'elles restent très dociles dans la mesure où c'était une manufacture d'État, et on considérait à l'époque que les conditions de travail dans les manufactures d'État étaient bien meilleures que dans les usines privées. Donc elles étaient aussi très mal vues à cause de ça. Elles n'avaient vraiment pas le droit de se plaindre.
Vous dédiez votre BD aux femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles. D'ailleurs, on l'a dit à la fin du récit. Hein. Quel lien peut-on tracer entre leur lutte et celle des cigarières ?
J'ai choisi cette dédicace car leur combat m'avait beaucoup touchée. Cette grève avait duré 22 mois, c'était extrêmement long. Et puis l'une d'elles, Rachel Kéké, est devenue députée. On peut voir un lien avec cette Marie G dont nous venons de parler, qui s'est ensuite vraiment impliquée pour les autres. Pour moi, c'est une façon aussi de montrer que les leçons de l'histoire servent à comprendre le présent et anticiper l'avenir. Et c'est une petite piqûre de rappel aussi pour dire que rien n'est jamais acquis et que nous devons toutes et toutes rester vraiment vigilantes sur ces droits, même le droit de grève à l'époque qui venait tout juste d'être rétabli, et puis toutes ces questions liées aux violences sexistes et sexuelles, puisque certaines grévistes de l'hôtel Ibis des Batignolles rapportaient des cas d'agression sexuelle.
Alors, la Belle de Mai, vous étiez en immersion finalement, hein, pour atelier d'écriture. Aujourd'hui, quel héritage porte cet endroit de Marseille par rapport à cette histoire-là, s'il en porte encore ?
C'est vrai que j'ai passé un mois dans l'ancienne villa du directeur, en l'occurrence, qui est donc cette maison occupée aujourd'hui par la Marelle, qui accueille des écrivains et des artistes en résidence. Alors ça pourrait être, on pourrait penser que c'est une vision assez romantique de l'écriture, de vouloir s'immerger, mais ça joue vraiment un rôle. J'avais besoin de pouvoir m'imprégner des lieux, de pouvoir ne serait-ce que parcourir ces distances-là, me rendre compte de leur rythme de travail, de ce mistral qui souffle, d'avoir cette proximité du train qui existe toujours aujourd'hui, hein, c'est toujours très très proche de la gare. On voit cette maison ainsi que la friche Belle de Mai depuis le train quand on arrive à Marseille, et pour cause, cette usine a été construite peu de temps après la gare Saint-Charles. C'était vraiment important pour moi, et ce quartier, aujourd'hui quartier de la Belle de Mai, 3e arrondissement de Marseille, il n'y a plus d'usine, mais il y a une population encore très ouvrière et immigrée. 50% des gens là-bas vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il me semble aussi que c'est l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Et certaines rues portent les noms de Clovis Hugues, qui était ce député socialiste du groupe ouvrier à la Chambre des députés à l'époque, et qui avait plaidé leur cause auprès des ministres et des députés. Donc il y a un héritage qui est resté. Et ce que je trouve cette histoire souligne également, c'est le mépris aussi dont Marseille a pu être victime à travers les âges et qui se ressent encore aujourd'hui.
Oui. Merci infiniment, Mathilda Ramadier. Je rappelle le titre de votre bande dessinée, La Belle de Mai, fabrique des révolutions. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la grève des cigarières. Le Marseillais, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Cailleux.